Bonjour à tous, je suis Mélissa, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode un peu spécial. Cette fois-ci, je ne suis pas accompagnée de Charline mais de Léna Pavin, étudiante en master à Sciences Po Paris. Elle est venue témoigner de sa troisième année à l'étranger, comme vous devez vous en douter, plus particulièrement en Corée du Sud. Mais avant de commencer, je te laisse te présenter un peu plus en détail.
Bonjour à tous, je m'appelle Léna, j'ai 20 ans, j'ai fait ma scolarité à Raoul Folro aussi. Maintenant, je suis à Sciences Po en master administration publique et en effet, donc, j'ai fait un an à l'étranger. C'était super et je viens ici pour t'en parler.
Donc, de ce que je sais, tu as eu la chance de visiter plusieurs pays asiatiques, mais avant de te parler de tous ces voyages secondaires, parle-nous du pays dans lequel tu as été affectée pour ta troisième année.
Alors, j'étais en Corée du Sud, donc c'était pendant environ un an. C'était un semestre d'échange très classique, donc dans l'université Seoul National University. Donc c'était à Séoul, plus exactement.
Ok. Et c'était ton premier choix ou pas ?
Oui, c'était mon premier vœu en tout cas.
Les seconds, c'était...
Les trois premiers, c'était pareil, en Corée du Sud, et les trois derniers, c'était au Japon.
Ok, d'accord. Et du coup, au niveau de financement, t'as fait comment ?
Alors, faut savoir que Sciences Po, ils peuvent te permettre d'avoir des aides, notamment avec Erasmus. Pour la Corée du Sud, c'est que dans le cadre des trois meilleures universités de Corée du Sud.
Okay.
Donc, tu peux avoir des aides. Si je ne me trompe pas, c'est environ 4 500 €. Pas par mois, c'est en total, hein, pour bien préciser.
Ouais.
Sinon, en fonction de si tu es boursière aussi, il faut prendre ça en compte. Si tu es boursière, bien sûr, tu as les aides du CROUS et de Sciences Po, un complément donc, qui est assez important en fonction. Il me semble, si je ne me trompe pas, c'est 70% de ta bourse. Et sinon, le reste, pour le financement, c'était de la part de mes économies et de mes parents.
Ok. Et donc, tu as dit que tu es partie un an, mais 12 mois ou 10 mois ?
Alors, je suis partie du 1er août à mi-juin, à peu près.
Ok, d'accord, ça marche. Et donc, t'as pas eu le mal du pays ? C'était pas trop difficile d'être éloignée de ton entourage ?
Je dirais que pour le mal du pays, je l'ai pas eu parce que j'ai eu la chance de beaucoup voyager.
Ok.
Donc, je ne suis pas restée sans arrêt dans le même pays. Toutefois, je dois dire que 10 mois... En Corée du Sud, malgré les voyages, des fois, ça pouvait être un petit peu long. Donc c'était plutôt... je ne l'ai pas eu, mais en tout cas, encore une fois, par exemple, pour les personnes qui sont très attachées à leur famille et aux critères d'éloignement, ça peut être beaucoup plus compliqué. Pour ma part, ça a été. Et puis, il y a beaucoup de choses qui sont en place à l'heure actuelle, comme par exemple les visios. On peut vraiment s'appeler d'une manière assez régulière.
Et du coup, c'est quoi qui a été le plus difficile pour toi à t'adapter ?
Comment,
le choc culturel, quoi.
Je dirais la nourriture.
La nourriture ?
J'aimais énormément la nourriture coréenne, mais toutefois, c'est très, très, très différent de la nourriture occidentale, notamment pour les légumes, enfin, pour la conception même du plat chez eux. Ça se fait en babcook, c'est vraiment le riz d'un côté, la soupe, et ensuite, on a en fonction des protéines, des légumes, ça dépend. Bien sûr, les bangchan qui sont les accompagnements à côté, mais c'est vrai que c'est totalement différent de la France. Ouais. Et on n'a pas nos petits repères comme le pain, le fromage, vraiment les trucs typiques, mais à la fin, sur quand même 10 mois, je peux te dire que ça commence à peser.
Ouais, ok. Et d'ailleurs, alors ça, je ne sais pas du tout si c'est vrai, mais en gros, j'avais appris que c'était mieux de manger au moins 3 fois par semaine au resto, que ça valait moins cher que d'aller faire ses courses à un supermarché.
Totalement, tu ne fais pas tes courses en Corée du Sud. Ah, vu le prix, c'est extrêmement cher. Vraiment,
et c'est quoi le plus cher du coup ? C'est les légumes et les choses.
Alors ça va être les légumes et les fruits. J'ai quasiment pas mangé de fruits et de légumes quand j'étais en Corée du Sud.
Ah ouais,
c'était vraiment hors de prix. Je mangeais tout le temps en extérieur. Parce que tu pouvais avoir des plats, sincèrement, en équivalent euro, ça pouvait te revenir à 1 euro. 50 centimes, 1 euro, des fois, quand tu avais vraiment des bonnes adresses. Sinon, c'était aux alentours de 1 ou 2 euros. Alors que, par exemple, pour un plat que tu aurais acheté, je ne mets pas de viande dedans. Parce que, alors, si tu mets de la viande, c'est encore plus dérisoire au niveau du prix. Mais sinon, je te dirais environ 4-5 euros minimum pour un plat.
Ah ouais.
C'est quand même beaucoup plus. Sans légumes non plus, vraiment occidentaux.
Ok. Oui, effectivement. Et du coup, alors, pourquoi tu as choisi ce pays ?
Alors, c'est une question assez compliquée à répondre assez brièvement. Mais je dirais... Déjà, quand j'étais plus jeune, j'étais très très fan de tout ce qui était culture. Comme on l'entend, la culture plutôt soft power coréen, donc les K-dramas, la K-pop. Mais plus j'ai grandi, plus je me suis un petit peu plus délassée de tout ça. J'ai regardé beaucoup plus sur la culture vraiment historique, avec l'influence du Japon et de la Chine, et notamment aussi toute la région autour. Donc j'étais très attirée par ça, très attirée par les thématiques asiatiques. Donc ça s'encadrait parfaitement aussi avec une envie, un rêve de gosse, je pense, de vouloir quand même aller visiter la Corée du Sud et y vivre.
Ok, je vois. Et du coup, est-ce que tu envisagerais d'y habiter ou même d'y travailler ?
Alors, pour y habiter. Je pense que je pourrais à nouveau y être pendant quelques temps, mais alors sincèrement sur un temps assez réduit. Et surtout si je voudrais y travailler que sous le système français,
okay.
Donc travailler avec des entreprises françaises ou alors en ambassade, parce que le système coréen au niveau du travail, c'est absolument ahurissant. Ils n'ont pas vraiment de vie, vraiment la vie à côté du travail, c'est quasiment inexistant. Donc je m'y verrais absolument pas, et surtout j'ai pu voir des personnes qui rentraient tard le soir, mais vraiment à des 23h ou 1h du matin. C'est assez compliqué quand même.
Bah, c'est sûr, et puis après c'est... J'ai envie de dire, c'est un peu comme tous les pays asiatiques.
Ah, complètement.
Surtout, la Chine, le Japon et tout.
Encore, je dirais qu'en Chine, c'est un petit peu moins prépondérant.
Ouais, parce que
mais par contre,
tu es allée.
Mais pour le Japon, je suis totalement d'accord avec toi. Là, c'est vraiment inhumain, presque.
Ouais. C'est pire, le Japon, tu penses ?
Je pense que ça s'équivaut fortement. Après, je n'ai pas l'expérience du Japon non plus. J'ai pas vécu. Mais pour la Corée, c'était quand même très, très fort. Quoi.
Et juste au cas où, tu sais à peu près le nombre d'heures qu'ils font par semaine ?
Alors, j'ai vu que le nouveau président, si je ne me trompe pas, il avait une réforme pour passer à un peu plus de 60 heures par semaine de travail.
Oh là là.
Alors, je ne sais pas si c'est à l'heure actuelle le cas, mais je crois que c'est un peu plus de 50 heures.
Ok, ouais. C'est sûr que ce n'est pas du tout la même chose que vous. Et donc bon, on a tendance quand même à dire que le Japon, ça se ressemble avec la Corée du Sud, peut-être moins la Chine quand même, parce que c'est vraiment encore autre chose. Mais enfin, tu trouves des points communs, des différences, donc dans le travail et peut-être dans les mentalités aussi dans la société.
Alors, en ayant été en Chine et au Japon notamment, je trouvais qu'il y avait plus de similarités avec la société japonaise, notamment sur le respect. C'est vrai qu'en Corée et au Japon, ils vont avoir un respect qui est un petit peu pareil, surtout par rapport aux aînés, moins vis-à-vis de l'inconnu dans la rue ou quoi que ce soit. Et je trouve que ça se ressemble beaucoup, donc que par exemple sur la question du travail, sur la question du respect, sur la question aussi un petit peu alimentaire, mais aussi sur la société en général, notamment sur la question des femmes, sur la question des personnes âgées. C'est vraiment des thématiques qui sont assez existantes dans les deux pays. Donc on sait que c'est assez dû à la colonisation du Japon sur la Corée. Donc c'est vraiment ancré dans les racines quand même coréennes.
Ouais, et puis rien que pour les droits des femmes, justement là j'ai vu récemment le 14 novembre comme quoi que il y avait un Coréen qui avait attaqué une femme parce qu'elle avait une coupe assez courte de cheveux, et du coup il a cru qu'elle était féministe, et en fait c'est un truc aberrant quoi. Enfin, dès qu'ils entendent le mot féministe, c'est tout de suite l'agression et tout. Enfin, c'est un truc de fou quoi.
Ouais,
c'est...
je suis d'accord avec toi. Après ça, j'en ai pas eu, c'est vrai que j'ai pas eu vraiment de moments où on parlait beaucoup de féminisme, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de tabou déjà, premièrement, donc ils m'ont très peu parlé, mais ça se ressentait quand même. En général, je trouve. Enfin, il n'y a pas vraiment de question de la femme.
T'as quand même pu témoigner justement de ce sujet tabou, quoi.
Oui, un petit peu, avec des Coréens, surtout des femmes, du coup. On en a quelquefois parlé, mais c'est vrai que pour eux, même la question de la femme qui fait de très grandes études, en parallèle, par exemple, d'être enceinte, c'est vraiment, pour eux, c'est presque n'importe quoi. Enfin, même une femme qui fait des très longues études, c'est un peu plus compliqué à accepter pour eux que ça soit à la place un homme. C'est très particulier, c'est mon habitude de tout ça.
Mais d'ailleurs, est-ce que tu trouves qu'il y a, par exemple, donc t'es allée en Chine, et est-ce que tu trouves qu'il y a, pour les droits des femmes par exemple, il y a une évolution beaucoup plus progressiste pour la Chine ou pour la Corée du Sud, ou c'est vraiment pareil ?
Alors j'ai vécu en Chine quelques mois, et c'est vrai que c'est pas exactement la même chose. Je trouvais que par exemple la femme en général en Chine pouvait être beaucoup plus s'affirmer. Elle a plus de caractère, je trouvais, que par exemple en Corée, où on demande d'avoir un caractère plutôt lisse, où on demande de pas un peu soumettre en fait, se soumettre à que ça soit la société ou aux hommes en général. Mais en Chine c'était pas totalement le cas. Après j'ai pas pu voir non plus les mêmes thématiques que j'ai vues en Corée, donc je pourrais pas avoir des faits sûrs et vérifiés. Mais de mon point de vue et de mon ressenti, la femme était quand même avait plus de caractère et plus de place qu'en Corée du Sud.
Oui, ok. Donc tu y es resté 4 mois aussi.
Oui, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Et donc après, tu as visité d'autres pays ou pas ?
Alors, pendant l'hiver, je suis partie au Vietnam et en Thaïlande.
Ok.
Et du coup, j'ai fait Vietnam, Thaïlande, puis après j'avais fait un peu Chine et Japon aussi.
Et Vietnam et Thaïlande, qu'est-ce qui t'a plus frappé ?
Tu parles en différence culturelle ?
Différence culturelle, et puis aussi dans la société, par rapport à nous, c'est sûr qu'il y a forcément un truc qui va te frapper.
Par exemple, pour le Vietnam, c'était la gentillesse des gens. J'ai jamais rencontré des personnes aussi gentilles de toute ma vie.
Ah ouais ?
C'était des personnes très avenantes, très sociales, qui avaient vraiment du respect pour les inconnus, comme pour leur famille, comme pour leurs amis, pour leur entourage en général. Et quelque chose qui m'a marquée, bah, je pense la pauvreté quand même. Parce que c'est pas les mêmes conditions.
Thaïlande
que...
comme Vietnam ou...
J'irais quand même plus... Oui, un petit peu plus quand même au Vietnam. Parce que c'est pas non plus la même société. C'est vrai que par exemple en Thaïlande, j'ai fait surtout Bangkok et Phuket, même si à Phuket j'étais plus pas trop dans les endroits touristiques. C'est pas le même développement. Par exemple en Thaïlande, on voit beaucoup plus de buildings que au Vietnam. Au Vietnam, j'étais à Hanoï principalement, j'étais pas à Ho Chi Minh. Donc déjà, j'ai pas pu voir la même place économique. Mais je trouvais que oui, quand même, la pauvreté par exemple à Hanoï, elle était vraiment. On la voyait partout, on la voyait dans la rue, les gens, c'était les conditions humaines, c'était pas les mêmes que chez nous, par exemple, en Occident, ou en
c'est
Corée.
Sûr que quand tu ressors d'un voyage comme ça, c'est très enrichissant aussi. Puis on se dit, waouh, la chance qu'on a quand même.
Ouais, exactement.
Ok, alors donc je vais maintenant finir par te poser des questions sur la vie pratique pour tous ceux qui souhaitent aller en Corée du Sud. Donc je te propose de rendre le concept un peu plus fun. Alors je pense que tu connais Hugo Décrypt.
Oui.
Et tu as sûrement dû voir ses interviews concentrées en une minute.
D'accord.
Et ben on va suivre le même principe. Donc tu dois essayer de répondre le plus vite possible aux questions suivantes. Mais dans le cas où tu bloquerais, je te conseille de passer. Et après on reverra si tu veux un peu plus peaufiner tes réponses. Il n'y a pas de souci. Donc, chers auditeurs, je vous conseille d'être attentif aux petits tips de Léna. Bah, c'est parti. Quel conseil est le plus important pour anticiper son voyage ?
Se renseigner absolument sur le pays, sur les choses qu'on a le droit d'emmener, ce qu'on n'a pas le droit, et surtout un petit peu sur les normes non écrites là-bas.
Quel visa tu as pris pour y rester et en connais-tu d'autres ?
Alors, si je ne me trompe pas, ça fait déjà quelques temps, il me semble que j'avais le visa D2. C'est un visa étudiant, je ne pourrais pas vous dire exactement les autres visas qui existent. Je sais qu'il y a le K-ETA pour les personnes qui veulent juste partir en vacances.
Tu conseilles d'avoir des bases en coréen ou l'anglais suffit ?
Ah non, je pense qu'il faut quand même avoir quelques bases en coréen parce que c'est un pays où les personnes n'ont pas forcément envie de parler anglais et ils vont se forcer quand même à parler en coréen.
Ok, donc du coup, est-ce que tu penses que c'est facile de se faire des amis ?
Non, pas du tout. Du moins, pas avec des personnes coréennes. Avec des étrangers, c'est très facile, mais avec des coréens, c'est très compliqué.
Ok. Quelle est la meilleure saison pour s'y rendre ?
Oula, n'y allez absolument pas en été et en hiver. En hiver, vous aurez sans doute des moins 30, en été, des 40, donc plutôt automne, printemps.
Ok. As-tu vu beaucoup de touristes ou c'est un pays qui reste peu connu selon toi ?
Alors, il y a beaucoup de touristes dans les zones, je dirais les grandes villes comme par exemple Busan, Séoul, Daegu. Par contre, si vous allez dans les petites provinces, c'est incroyable, c'est magnifique et il y a peu de monde. Mais là, il va falloir bien parler coréen quand même.
Ok, ok. Bon, bah, on a terminé.
Merci.
Et donc, en tout cas, je te remercie d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Mais si tu veux, on peut répondre à d'autres questions. Alors, bon, il y en a une, je pense qu'on a parlé, donc qui est-ce qui était le plus cher par rapport en France ? On a répondu à celle-là. Mais si tu avais une visite obligatoire à faire, ce serait laquelle ?
Une visite obligatoire ?
Ouais.
Je dirais aller à Gyeongju. C'est une ville qui était anciennement, enfin avant Séoul, la capitale. C'est une ville qui est extrêmement riche historiquement, c'est magnifique. Vous avez des gens qui sont très très bienveillants, très gentils. Il n'y a pas tant de touristes que ça. Et vous avez la saison du printemps où il y a les cerisiers qui sont en fleurs, c'est juste magnifique.
Ok. Bon, t'as quand même envie d'y retourner ?
Oui, okay. Bien sûr.
Et du coup sur 10, tu mettrais quelle note ?
Je dirais quand même un 8,5-9.
Ok. Et ben, je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions. Ainsi qu'à ceux qui nous ont écoutés. On se retrouve très bientôt avec Charline pour la découverte d'un nouveau thème. Vous pouvez bien évidemment retrouver tous nos épisodes en podcast sur le site bacfm.fr et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée.
Merci.